qui ou qui a la peur, ils en prendront une. Comme si, parce qu'on venait dire à l'église, voilà, moi je veux apprendre à aimer, le garçon, la fille s'attend forcément à ce que le prêtre n'ait qu'une seule réaction, attention. Attention, 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 t'as pas le droit de, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est pas péché. Ou encore, je pense à ce scout il y a quelques années, après un topo que j'avais fait pour l'HP, sa première question c'était de dire, mon père, maintenant jusqu'où je peux aller avec ma copine sans que ce soit un péché grave? Je lui dis, mais bon, beau vieux, t'es con. Ta question est con. Parce que, si tu penses que l'Église n'est là que pour mettre une ligne rouge qu'il ne faudrait pas dépasser, mais qui de toute façon va reculer au fur et à mesure, eh bien ça ne va pas tenir longtemps. Si tu penses que le message de l'Église, c'est qu'une suite d'interdictions, eh bien c'est ennuyeux dans ce cas-là, comme morale. Mais ce n'est pas ça que dit l'Église. L'Église, mes amis, quand on parle de sexualité, quand on parle de vie affective, sa première réaction, c'est l'émerveillement. Quand quelqu'un vient me dire, mon père, je suis amoureux, je suis amoureuse, ma première réaction, c'est de dire, c'est génial. C'est génial parce que tu es fait pour aimer et être aimé. Et c'est même, selon la Bible, ce qu'il y a de plus beau en toi. C'est ce que Dieu a voulu te donner de plus beau. La capacité d'aimer. Vous relisez les trois premières lignes de la Bible. Dieu créa l'homme pour la femme pour l'homme, et ensemble ils ne feront plus qu'un, et Dieu vit que cela était très bon. C'est pas Dieu vit que Dieu était gêné, ou Dieu vit... Non, non. Dieu vit que cela était très bon. Dieu vous a donné ce qu'il y a de plus beau en vous, cette capacité à aimer et être aimé, à vous donner. Et en même temps, qu'est-ce que dit l'Église ? L'Église, parce qu'elle ne vous ment pas, parce qu'elle vous aime, et vous savez très bien, pour savoir si vous pouvez faire confiance à un adulte, l'adulte en qui vous pouvez faire confiance, c'est pas celui qui vous dit, qui cherche à vous faire plaisir, qui cherche à plaire. C'est celui qui est vrai avec vous. L'Église, parce qu'elle vous aime, elle est vraie. Elle vous dit, voilà, cette capacité à aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau en toi. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus fragile. La preuve, vous le savez très bien, c'est là-dessus que tu pourrais être le plus heureux du monde et rendre quelqu'un le plus heureux du monde. Et en même temps, c'est là aussi que tu peux le plus te blesser ou le plus être blessé, le plus blesser quelqu'un. Et donc tout ce que dit l'Église et tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est pas du tout un écran entre vous et l'amour. Il ne s'agit pas de vous empêcher d'aimer. Il s'agit au contraire, comme je le disais, d'un écrin. J'aime bien prendre cette image. Vous savez, l'écrin, c'est la petite boîte dans laquelle, messieurs, vous offrirez la pâte de fiançailles à votre fiancée. Parce qu'une pierre précieuse, c'est à la fois fragile et beau. Et l'écrin, c'est cette boîte qui sert à la fois à protéger et à mettre en valeur. Et bien, tout ce que l'Église vous dit, c'est un écrin pour une capacité d'aimer. C'est-à-dire, ça sert à la fois à protéger et à mettre en valeur votre amour. Parce que l'Église, elle veut qu'une chose. Elle veut que ça reste un lieu de joie et pas de souffrance, comme je vois souvent. Alors, si vous comprenez cela, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Je ne vais pas faire un grand cours, un grand topo. Je vais vous donner des pistes de réflexion. Et là-dessus, ensuite, vous en faites ce que vous voudrez. Vous réfléchirez tout seul. Vous êtes maintenant assez grand pour le faire. Vous en discuterez entre vous, si vous voulez. Première chose, si vous voulez apprendre à aimer en vérité, il va falloir apprendre la distinction entre vérité et sincérité. Aujourd'hui, dans notre génération, le seul critère que tous les jeunes connaissent, et même leurs parents souvent, c'est la sincérité. Mon père, pourquoi j'ai pas le droit de faire ça, puisque je suis sincère? Mon père, pourquoi on n'a pas le droit de coucher ensemble, puisqu'on est sincère? Mon père, pourquoi je ne veux pas sortir avec elle ou avec lui, puisqu'on est sincère? La sincérité, c'est ce qu'on ressent. Puisque je ressens, c'est que c'est bien, puisque je le sens comme ça. Vous voyez, je me souviens d'un jeune qui était venu me voir après les JMJ. Les JMJ, c'est pas toujours génial pour ce genre de choses. les GMJ, il m'a dit, mais qui venait me voir et puis il m'expliquait que, alors qu'au fil des GMJ, il sortait avec une demoiselle charmante. Alors je lui dis, mais explique-moi comment ça s'est fait. Il dit, ben, je l'ai rencontré au début des GMJ. J'ai vu, c'est 5 jours. Hein. Donc il la connaissait depuis 5 jours. Bon. Et puis ça s'est passé à la veillée avec le pape. Veillée de prière avec le pape. Bon. Ah oui, mais vous savez, mon père, c'était. C'est vrai que c'était. Il y avait une atmosphère extraordinaire, c'était la nuit, il y avait plein de lumières partout, un million de lumières, etc., de petites lampes. C'est une atmosphère super, hyper prenante, etc. Et puis, vous savez, mon père, je l'ai repéré, ça fait 5 jours qu'on, voilà, qu'on se connaissait, tout ça. Et puis, on a dû chapeler ensemble. Et puis là, je sais pas, ça fait très chaud dans mon cœur. Puis, du coup, la fin du chapelet, et puis on est sortis ensemble. Bah, je dirais, pauvre vieux, ce chapelet, ça fait cet effet. Arrête de dire chapelet, mon ami. Je dis, mais attends, mais je l'ai senti comme ça. Je dis, mais attends. Le seul critère de ton choix, c'était ce que tu as ressenti sur le moment. T'es sincère, ok. Mais moi, le problème, c'est que toutes les semaines, je récupère des jeunes qui se sont sincèrement plantés. Et vous savez, quand je vois, quand j'entends une fille ou un garçon me dire, mon père, pourtant j'étais sincère quand je me suis donné. Quand j'ai fait confiance, pourtant j'étais sincère. Comment ça se fait que ce soit si blessant? Donc, ça ne suffit pas d'être sincère, il faut apprendre à être vrai. Et pour ça, je vous donne vraiment le baba. Mais si vous percutez là-dessus, vous avez tout compris. Pour ça, il faut faire la distinction entre être amoureux et aimer. Être amoureux, c'est quoi? C'est un sentiment. C'est-à-dire ce que je ressens. Je ne choisis pas de qui je tombe amoureux. Je ne choisis pas quand est-ce que je tombe amoureux. Que ce soit par un coup de foudre ou que ce soit peu à peu. Le sentiment amoureux, comme tous les sentiments, il est fluctuant. Je peux être amoureux pendant 6 mois très fort de quelqu'un et puis voir que tout d'un coup ça disparaît un peu au profit de quelqu'un d'autre. On peut être amoureux de plusieurs garçons, de plusieurs filles dans sa vie. On peut être amoureux, ceux qui sont mariés le diront, sentiment amoureux même pour des gens mariés, mais c'est pas tous les jours au top. On ressent pas tous les jours la même chose. 24h sur 24 à 100%. Un attrait immense pour l'autre. Ce sentiment amoureux, voilà, il est fluctuant. D'autre part, ce sentiment amoureux, il est souvent au début égoïste. Il n'y a pas d'égoïsme. Quand je demande à telle jeune fille, je dis, pourquoi vous sortez avec ce garçon? Mais parce que je l'aime. Comment vous le voyez? Et parce que quand il est là, depuis qu'on est ensemble, je me sens forte, il m'a aidé à me reconstruire, je me sens en paix, je me sens sereine, il m'apporte cette joie, machin, ça. C'est mignon. C'est mignon, mais c'est pipeau. C'est que vous ne l'aimez pas encore. Vous aimez ce qu'il vous apporte. Vous ne l'aimez pas encore tel qu'il est, pour ce qu'il est. Ah oui, mais il est génial. Oui, mais... Vous l'aimez tel que vous le rêvez. Vous ne l'aimez pas encore tel qu'il est, avec ses défauts, sa pauvreté, etc. Et c'est normal, au début, c'est le sentiment amoureux. On peut être amoureux au bout de 24 heures ou au bout d'une soirée. On peut être amoureux aussi que pour 6 mois ou pour 2 semaines. Ça, c'est le sentiment amoureux. Et puis maintenant, aimer. Aimer, c'est très différent. Aimer, c'est le choix de votre volonté. Aimer, c'est pouvoir dire à quelqu'un, voilà, parmi toutes les filles dont je pourrais être amoureux, c'est toi que je choisis. Aimer, ça veut dire ça. Je te choisis. Je t'aime, c'est égal à je te choisis. Aimer, ça veut dire je décide de te choisir. Pour t'aimer pour toujours. La preuve, le jour de votre mariage. Le prêtre ne va pas vous demander est-ce que tu es amoureux d'elle? Est-ce que tu es amoureuse de lui? Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que ça fait chaud dans ton cœur? Il s'en fout. Il pense que c'est le cas, parce que c'est quand même plus facile pour se marier. Mais au fond, il s'en fout. Qu'est-ce qu'il pose comme question? Veux-tu? Parce que vous ne pouvez pas promettre à quelqu'un de ressentir toute votre vie la même chose pour lui ou pour elle. Par contre, vous pouvez promettre à quelqu'un de vouloir l'aimer chaque jour de votre vie. Votre liberté, elle est dans ce que vous choisissez. Vous voyez ? Et du coup, vous comprenez la différence ? On peut être amoureux 6 mois, quand on choisit quelqu'un, c'est pour toujours. Vous n'imaginez pas dire à quelqu'un, écoute, je te choisis pour 3 mois. Puisque c'est un acte profond de votre volonté, de votre liberté qui s'engage. On peut être amoureux au bout de 24 heures, ou au bout de 2 heures de soirée. On ne peut pas dire à quelqu'un, je te choisis au bout de 5 jours. Parce que c'est un acte qui engage tellement qu'il faut vraiment connaître la personne, qu'il faut vraiment avoir pris le temps de préparer ce choix, de discerner ce choix. Voilà la différence entre les deux. Maintenant, je vais être concret. Pourquoi beaucoup de jeunes que je peux voir autour de moi se blessent, s'abîment? Tout simplement parce que ils posent des gestes ou des paroles qui veulent dire « je t'aime » alors qu'en fait, ils ne sont qu'amoureux. C'est génial de dire « je t'aime » à un garçon et une fille. Génial. J'ai rien contre. C'est beau. C'est beau, pas simplement si c'est sincère. C'est beau si c'est vrai. Ça veut dire si ça correspond réellement à un choix de votre cœur. Je t'aime, ça veut dire je te choisis. Vous pouvez dire je t'aime. Je m'en fous de la question d'âge. Vous pouvez dire je t'aime. Si vous êtes capable de dire réellement je te choisis. C'est génial d'embrasser un garçon, d'embrasser une fille. J'ai rien contre. Comme ça, beau comme geste. C'est beau si c'est vrai. Pas simplement si c'est sincère. C'est vrai si le geste que vous posez correspond réellement à ce que vous vivez dans votre cœur. Embrasser, c'est déjà une promesse d'un don total. C'est le premier pas vers le don total que sera la relation sexuelle. C'est donc vrai ce geste. C'est dans votre cœur que vous êtes capable de dire « Je te promets. Je promets de te choisir. Je suis prêt à te promettre ce don total. » Alors vous allez me dire, attendez mon père, vous êtes un peu plein d'illusions. Venez voir la sortie de nos collèges, la sortie de nos lycées, la sortie de nos paroisses. Et vous verrez que c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, on s'embrasse comme ça, facilement. On sort ensemble, vous voulez une soirée, et puis voilà. C'est vrai, je ne fais aucune illusion, rassurez-vous. Et pourquoi pourtant je vous dis ça? Même si je sais que 99% des jeunes vivent le contraire. Pourquoi je vous dis ça quand même? Je vais vous dire pour l'enjeu. Des jeunes, j'en vois à votre âge, puis j'en vois 10 ans plus tard. Ok? En particulier, vous savez, quand ils viennent se préparer au mariage. Le véritable enjeu, mes amis, c'est quoi? La vraie question que l'Église vous pose, c'est pas simplement de dire est-ce que c'est péché, est-ce que c'est pas péché. La vraie question que l'Église vous pose, c'est de dire, comprends-tu que si tu t'habitues à 14 ans, 15 ans, à poser des gestes sans attendre qu'ils soient complètement vrais, à te dire des choses aussi grandes facilement, trop vite et trop tôt. Comprends-tu, mon ami, qu'il ne te restera pas grand-chose à offrir à celle que tu aimeras vraiment, à celui que tu aimeras vraiment dans quelques années? La vraie question que l'Église vous pose et que je vous pose, qu'est-ce que tu gardes de neuf pour celle qui deviendra ta fiancée, pour celui qui deviendra ton fiancé? Tu auras quoi à lui offrir? C'est ça la vraie question. Et vous voyez que ça va bien plus loin, c'est bien plus profond que simplement de dire « t'as pas le droit ». Qu'est-ce que tu gardes pour celui que t'aimeras vraiment? Parce que, à force de poser ces gestes-là, à force de sortir comme ça facilement, à force de dire « je t'aime » trop vite et trop facilement, eh bien ces mots-là, ces confidences-là, ces gestes-là, ils perdent leur sens, ils s'appauvrissent. Quand vous serez fiancé, vous embrasserez votre fiancé vous dira « ça veut dire quoi pour toi ?» Ah, vous lui direz ben, « ça veut dire je t'aime ». Et elle vous dira « oui, mais quand tu faisais avec la précédente, ça veut dire quoi ?» Tu disais la même chose? Ah oui, mais c'est différent. Oui, mais ça aussi tu le disais par rapport à celle qui avait encore précédé. Comment veux-tu, dira votre fiancé, comment veux-tu que je puisse m'appuyer sur ta parole, sur tes je t'aime, sur tes gestes de tendresse? Comment veux-tu que je puisse m'appuyer dessus pour te faire confiance, pour bâtir ma vie, si tu les as déjà posés si facilement et si souvent? Ils ne veulent plus rien dire. Ils sont pauvres, ils sont usés, ces gestes-là. Qu'as-tu gardé pour moi? Ça, c'est la question que vous posera votre fiancé. Vous voyez, j'étais très marqué par le premier mariage que j'ai célébré. C'était un jeune couple de Parisiens, plutôt l'Ouest parisien. Hyper sympa, hein, 23-24 ans. Ils n'avaient pas été toujours très sages au lycée, mais ils avaient un peu percuté. Vous avez compris ce que je vous dis là. Et du coup, vous avez vraiment entendu, en particulier leurs années étudiantes, qu'ils avaient vraiment vécu de façon claire. Ils s'étaient rencontrés vers 21-22 ans, ils avaient attendu, et puis ensuite ils s'étaient fiancés, et puis voilà. Et puis ils avaient vécu des vraies fiançailles dans la chasteté. C'était dur pour eux parce que dans leur groupe d'amis hyper sympas, d'étudiants parisiens, c'était un peu les derniers à y croire encore, à pas faire n'importe quoi, à pas se donner, etc. Et du coup, on disait souvent, on peut observer, c'est dur encore d'y croire, hein, parce que tous nos amis, ils lâchent les uns après les autres, et puis ils se souviennent de nous, du coup. Leur mariage, il y a deux choses qui m'ont marqué, profondément. La première, c'est la joie de ces deux fiancés. Vous savez, quand vous êtes devant vous un garçon de 24 ans, qui peut dire à sa fiancée, ça a été dur, mais je me suis gardé pour toi. Tu sais, je t'ai attendu. Je n'ai pas voulu qu'il y en ait d'autres avant. Ces gestes-là, ils t'appartenaient à toi. Quand le fiancé peut dire à son fiancé, tu sais, c'était rude, mais j'ai voulu t'attendre. Vous imaginez la force du oui à ce moment-là? La force du oui. Impressionnant. Impressionnant. L'autre chose qui m'a marqué, c'est le regard des autres, leur groupe d'amis hyper sympa, mais qui avait tout fait. C'est un regard d'envie. Il y en a un qui est venu me voir après, un type sympa, dans la réception. Il est venu discuter avec moi. Il m'a dit, vous savez mon père, je n'oublierai jamais. Vous savez mon père, quand je vois leur joie aujourd'hui, à nos deux mariés, je comprends enfin ce qu'ils ont voulu vivre. Je comprends pourquoi ils ont vécu comme ça. Leur joie, elle est immense aujourd'hui. Et moi, me dit-il, je payerai cher pour être à leur place. Mais je suis pas sûr d'en être encore capable de cette joie-là. Parce que vous savez, mon père, je me suis trop donné. Je suis plus sûr de pouvoir être capable de cette joie. Vous voyez? Et c'est là où j'ai compris, ce jour-là, j'ai compris ce que me disait souvent mon père spirituel. Il me disait, quand j'étais au lycée, il me disait souvent, Pierre-Hervé, rappelle-toi, la joie se paye avant, le plaisir se paye après. La joie se paye avant, le plaisir se paye après. C'est pour ça que je vais être franc avec vous aujourd'hui. C'est parce que je crois profondément qu'on ne se prépare pas au mariage à 25 ans. On se prépare au mariage à 15 ans. Parce que c'est à 15 ans qu'on décide quelle sera notre joie dans 10 ans. C'est à 15 ans qu'on décide si on est prêt à renoncer aujourd'hui aux choses faciles pour un jour pouvoir dire oui à quelque chose de grand. C'est à 15 ans qu'on apprend à dire non à tous ces trucs faciles pour un jour pouvoir dire oui solidement. C'est à 15 ans qu'on décide de payer par nos efforts, par notre souci de vérité, par notre exigence, qu'on décide de payer la joie qu'on connaîtra un jour, qu'on offrira un jour à notre fiancé. Le plaisir se paye après. Il y en a à 15 ans qui se veulent très libres, je fais ce que je veux, et qui rigolent. Je peux vous dire que je les vois, moi, 10 ans plus tard, payer ce plaisir-là, amèrement, comme ce gars-là qui était venu me voir. Mon père, je ne suis pas sûr d'être encore capable de cette joie-là. que je suis usé. Je me suis trop donné. Le plaisir se paye après. Voyez, c'est pour ça que l'Église, elle est exigeante. Parce qu'elle vous aime et parce qu'elle veut votre bonheur. Et qu'elle sait qu'à 25 ans, au moment de vous marier, vous serez le résultat des 10 années qui ont précédé. Quand j'entends des jeunes me dire, je fais ce que je veux entre 18 et 25 ans, foutez-moi la paix, je m'éclate et puis je me calmerai. Je fais ça à 25 ans. Mais c'est une illusion terrible. On ne change pas à 25 ans. On ne change plus à 25 ans. À 25 ans, on est construit. Quand vous construisez une baraque, le plus important, c'est les fondations. Mais une fois que vous avez mis les murs, c'est trop tard, les fondations, c'est fini. Vous ne pouvez revenir. Et vous êtes, vous, à l'âge des fondations. Et c'est maintenant que vous décidez quel style de baraque vous voulez construire. Vous voyez pourquoi l'Église, elle ose vous dire ça. C'est pas ce péché, pas péché, péché, pas péché. Elle vous dit, il faut absolument que tu décides d'être vrai. Que tous ces gestes-là, que ce soit aussi bien embrasser, aussi bien les confidences, et même encore plus la relation sexuelle, tous ces gestes-là, l'Église n'a rien contre, c'est beau et c'est grand. C'est ce qu'il y a de plus beau. Mais justement, l'Église veut que ça reste beau. Que ça reste au service de votre joie. Et pour ça, il faut que ça reste vrai. Il faut attendre que ça soit pleinement vrai. Alors je vais vous donner des moyens concrets. Trois petites maximes. Et puis un mot sur les amitiés. Maxime, petite maxime à retenir facile. Ni trop tôt, ni trop vite, ni trop près. Ni trop tôt, ni trop vite, ni trop près. Ça veut dire quoi? Je vais développer un tout petit peu. Ni trop tôt, ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Quand on construit une maison, il y a le temps des fondations, et puis il y a le temps de construire les murs. Eh bien, je voudrais vous encourager à prendre le temps des fondations. Et ce temps, ça s'appelle le temps de l'amitié. Des groupes d'amis, garçons et filles. Moi, je suis étonné de voir combien de jeunes parmi vous et au-dessus de vous zappent le temps de l'amitié. Une fille me plaît, un garçon me plaît, je suis déjà dans la perspective de sortir avec. Il y en a beaucoup qui ne croient plus aux amitiés gratuites entre garçons et filles. Et je trouve ça très dommage. Moi, je rends grâce à Dieu d'avoir eu un groupe d'amis, garçons et filles, absolument génial. Où on a pu faire plein de trucs ensemble, partir en vacances, etc., monter des projets ensemble. Vraiment se connaître. Pourquoi? Parce qu'on avait décidé ensemble, entre nous, qu'on se foutait la paix sur tout ce qui était flirt and go. Si on ne voulait pas entendre parler de ça entre nous. Parce que justement, on voulait se donner du temps pour être libre. Et du coup, ça nous a libérés du regard des autres, de cette peur de ne pas plaire. Vous avez besoin de ces temps-là, temps d'amitié, où j'apprends à connaître l'autre gratuitement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. À 15 ans, c'est l'âge de me construire. Pas de construire quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est l'âge de me construire. Vous voyez? Un jour viendra où je pourrai construire quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais moi, ça m'inquiète un petit peu quand je vois deux jeunes construire trop tôt ensemble. Parce que je les vois l'un et l'autre encore fragiles, et c'est normal. Mais quand on est encore fragile et qu'on construit un truc ensemble, c'est un truc doublement fragile. Vous voyez? Il y a un temps pour tout. La priorité pour vous aujourd'hui, c'est de vous construire personnellement, d'être solide personnellement, aussi bien dans votre foi que dans vos études, que dans votre travail, que dans vos projets de vie. Et pour ça, vos groupes d'amis sont géniaux. Ni trop vite. Ni trop vite, ça veut dire rien de grand ne se fait sans prendre le temps. On peut être amoureux en une soirée. On ne peut pas dire je t'aime au bout de 3 mois. Parce que ne me faites pas croire que 3 mois suffisent à connaître assez quelqu'un pour décider de le choisir pour toujours. C'est pas vrai. Pas à 15 ans. Et du coup, prendre le temps, ça veut dire laisser la liberté à l'autre. Laisser le temps de discerner, de réfléchir, pas simplement avec le côté affectif qui peut partir tout de suite, c'est pas très compliqué ça. Le sentiment amoureux peut partir en flèche très vite. Mais l'intelligence, le cœur qui a besoin de réfléchir en profondeur. Je me souviens de cette fille qui était venue me voir, elle avait 21 ans, elle était sortie avec un garçon pendant 4 ans. C'était l'amour passionné, ils avaient été fous de l'un de l'autre. Et elle m'a dit, elle venait de casser. Et elle me dit, vous savez mon père, ça a été complètement fou, ça a été passionné, ça a été, on allait très vite, très loin, bref, on a tout fait. Et bien je m'aperçois aujourd'hui qu'en fait, on ne s'est jamais réellement choisi. Ça veut dire qu'on avait tellement peur de se perdre l'un et l'autre. On était tellement scotchés l'un à l'autre. Qu'on n'a jamais laissé cette marge de liberté et ce temps à l'autre pour librement réfléchir, discerner, choisir. Voyez. On peut être amoureux très bien à 15 ans. Mais mettez ça dans un coin de votre cœur. Laissez-le mûrir secrètement, discrètement. Et puis apprenez librement, sans rien réclamer, apprenez à connaître l'autre dans un groupe d'amis plus large. 15 ans, c'est l'âge de grandes amitiés. Il y a un truc que je ne supporte pas, m'arrive régulièrement quand je croise parfois dans Versailles, dans certains bars de Versailles, des jeunes que je connais, qui sont bien accompagnés. Alors, pauvre gars, il me voit arriver, manque de peau, il est avec sa demoiselle. Alors forcément, déjà, il lui lâche la main tout de suite quand il me voit en ligne de mire. Il est un peu gêné, machin, et puis moi je suis le con dans ce cas-là. Je suis un peu l'idiot. Je dis, ah, c'est ta cousine. Il cramoisit, il dit non, mon père c'est un tel, c'est. Il ne sait pas comment dire quoi, c'est quoi. Alors il finit par dire un peu bêtement c'est ma petite copine quoi. Ma petite copine. Mais c'est tellement nul comme expression. Mais c'est tellement affligeant comme expression. Ma petite copine quoi. Tiens, mes amis. Mes amis, je suis sérieux, à 15 ans, on n'est pas fait pour les petits, pour être un petit couple avec un petit cœur restreint, pour faire des petits trucs, non. On est fait pour quelque chose de grand, pour les grandes amitiés. À 15 ans, votre cœur, il est fait pour être large, pour un grand cœur, pour des grands amis, pour des grands amis, pas pour une petite amie. Un petit ami, ça veut dire quoi? Voyez? Prenez le temps de vivre ces grandes amitiés. C'est pas du temps perdu. Parce que c'est le ciment d'un amour éventuel futur. Je me souviens d'un garçon qui me dit, mon père, j'ai rencontré une fille à la soirée samedi soir dernier, je crois que je l'aime. Je lui dis, tu te fous loin, pauvre type. Ça fait 2 jours, il était marié. Tu la connais même pas cette fille, mais toujours tu la connais. Tu n'es même pas ami encore. Une amitié véritable, on met un an à la construire. Et toi tu veux me faire croire que tu l'aimes déjà. Mais non. T'es peut-être amoureux, t'es peut-être marqué. Mais ne parle pas d'amour comme ça. C'est, j'aimerais que quelqu'un vous dise, il y a un moment en disant je t'aime, est-ce que tu... C'est capable de dire, attends, mon vieux, ma vieille, t'as 15 ans. Tu me dis ça trop vite pour que ce soit vrai. J'aimerais tellement que tu me dises ça quand ça sera pleinement vrai. Voyez ? Je vois trop de... Combien de fois j'ai entendu des filles ou des garçons dire ça ? Mon père, on était deux super amis, et puis on a fini par sortir ensemble. Puis je m'aperçois qu'en fait, on est allé trop vite. Mais maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Ça ne sera jamais comme avant. Eh bien oui. Voyez, on a abîmé des amitiés. Parce qu'on a voulu passer ce temps trop rapidement. Alors qu'au contraire, c'est un temps extraordinaire pour nous aider à construire notre vie. Quand j'entends des filles me dire, mon père, je suis sorti avec lui parce que j'avais peur de le perdre. Si je disais non. Puis la même qui 2 ans plus tard me dit, mon père, j'ai couché avec lui parce que j'avais peur de le perdre. Si je disais non. Et ça, c'est entendu. Et vous imaginez là. Comment oserait-on parler d'amour dans ce cas-là, quand il y a si peu de liberté? Comme j'aimerais que parmi vous, il y en ait qui aient le courage de dire, un garçon qui réclame quoi que ce soit, une fille qui réclame quoi que ce soit, de dire, mais si vraiment tu m'aimais, ce serait tellement différent. Tu n'oserais jamais me réclamer quoi que ce soit. Tu serais capable de m'attendre. C'est la plus belle preuve que tu puisses me donner. Est-ce que tu es capable de m'attendre? Est-ce que tu es capable de vivre une vraie amitié gratuite d'abord? Prouve-moi que tu es capable d'une amitié gratuite. Ça me montrera que tu es peut-être capable ensuite d'un amour véritable. Et puis, lis trop près. Lis trop près, ça veut dire, mes amis, faites attention, je vous en supplie. Faites attention aux gestes que vous posez. Ces gestes-là, ils ne sont pas anodins. Ils ne sont pas anodins. Vous savez, là, je vous parle vraiment avec le cœur de prêtre. Hein. Moi, il n'y a pas de plus grande souffrance pour un prêtre que de voir des cœurs de jeunes. Et je pourrais vous donner des... Après les conférences que je fais là-dessus, mais je reçois des mails, mais par dizaines de jeunes que je ne connais pas, qui me disent, mon père, mais pourquoi je n'ai pas entendu ça avant? C'est tellement ça. Combien de jeunes blessés, abîmés dans leur pureté, dans ce qu'ils avaient de plus beau, de plus précieux, parce qu'ils n'ont pas été prudents, parce qu'ils se sont donnés trop vite, trop tôt. C'est pas anodin, vous savez. Et puis vous ne vivez pas de la même façon, garçons et filles. C'est pas parce qu'il y en a un qui a l'impression de ne pas trop s'impliquer ou de s'en sortir sans être trop blessé que l'autre, eh bien, s'en sort aussi bien. Je me souviens d'une conférence que j'avais donnée sur Paris l'année dernière. À la fin de la conférence, il y a une étudiante qui vient me voir et qui me dit, mon père, je crois que vous connaissez un tel. C'est un garçon que je connaissais effectivement. Elle me dit, je suis sorti avec lui pendant un an. Et puis on a cassé. Il est parti. Lui, il s'en sort assez bien. Mais moi, je m'en suis toujours pas remise. Parce que moi, quand je me donnais, c'était pour de bon. Quand je donnais mes lèvres embrassées, c'est mon cœur que je donnais vraiment. Et lui, non. Lui, non. La blessure est née de ce décalage-là, entre les deux. Ni trop près. Aucun geste n'est anodin. Je vais terminer sur les moyens. En vous demandant, en vous parlant un peu de l'amitié. Moi, je prie le ciel pour que vous ayez des vrais amis, garçons et filles. Et en particulier pour que vous viviez des amitiés exigeantes. Et je vais dire aux filles ce que j'attends d'elles, et aux garçons ce que j'attends d'eux. Je vais commencer par les filles. Bah, écoutez bien, parce que je suis très sérieux. Mesdemoiselles, je vais vous parler du problème numéro un des garçons. Enfin, il y en a plusieurs, mais... Le problème numéro un des garçons, mesdemoiselles, et je me mets dedans parce que je suis un garçon, donc je suis... Simplement, je prends ça aussi pour moi. Le problème numéro un des garçons, c'est qu'on est des gros faibles. C'est qu'on est des énormes faibles. Regardez. S'il y a des garçons qui ne sont pas d'accord, ils vont voir. Regardez, mesdemoiselles, combien de garçons sont capables à la fois d'avoir de grands projets, un grand idéal, et en même temps, regardez comme ils sont paresseux pour le mettre en pratique. On est des immenses paresseux. On est des gros faibles. Je généralise peut-être un petit peu, à part un ou deux ici. Je vous donne une petite image. Je vous donne une petite image concrète, un petit exemple. Écoutez bien. Imaginez des garçons à la piscine, il n'y a que des garçons. Avec un grand plongeoir de 15 mètres de haut. Il n'y a que des garçons. Je peux vous promettre qu'ils ont la trouille. On a tous la trouille. Il n'y en a aucun qui monte au plongeoir, je vous rassure. En les choisissant pour très bien. Réaction immédiate des garçons. Ils vont se jouer, ils vont se précipiter au plongeoir pour être le premier à sauter. Vous faites le test. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça génial comme exemple. Pourquoi? Écoutez bien. Ça veut dire que le simple regard d'une jeune fille a réussi à aider un garçon à dépasser sa peur. Et bien pour cette raison, je redeviens sérieux. Pour cette raison, je vais vous dire, l'atmosphère de votre groupe d'amis dépend à 95% de l'attitude des jeunes filles. Mettez dans un groupe d'amis des jeunes filles faciles, séductrices. Les garçons tomberont comme des mouches. C'est pas compliqué. Pas très compliqué de faire tomber un garçon. Mettez par contre maintenant des jeunes filles exigeantes. Des jeunes filles joyeuses. Il ne s'agit pas d'être triste du nez. Mais des jeunes filles joyeuses, rayonnantes, exigeantes, claires. Eh bien, ça vous tirera vers le haut. Vous savez, mesdemoiselles, les garçons me le disent à moi, en perso, en privé. Mon père, j'ai entendu souvent ça. Mon père, j'ai rencontré telle jeune fille, à son contact, on a envie d'être un gars bien. Cette fille-là, elle donne envie d'être un gars bien. Et je peux vous dire que les garçons font très facilement le tri entre ces filles faciles, qui brillent peut-être, mais qui font tomber, et ces filles qui donnent envie de mériter, d'être un type bien. Et je crois profondément. Et c'est pour ça, mesdemoiselles, que je vous demande vraiment dans nos amitiés d'être exigeantes avec nous. Moi, je rends grâce à Dieu, et je le revois encore, pour ces amis, filles, que j'ai eues sur ma route. Des amis qui étaient géniales, qui étaient hyper ouvertes, qui étaient exigeantes avec nous. Qui étaient exigeantes. Et du coup, ça nous tirait vraiment vers le haut. Et puis, mesdemoiselles, je vais être encore un peu plus franc avec vous. Vous savez que pour nous garçons, il y a un combat qui est difficile. C'est le combat de la pureté. C'est un combat qui n'est pas du tout évident. Je voudrais que vous rendiez compte. Et là, je suis extrêmement grave. Je voudrais que vous rendiez compte, mesdemoiselles, de l'importance que vous avez à ce moment-là. Parce que des jeunes filles lumineuses, des jeunes filles claires, je vous promets que ça nous donne la force de nous relever, de donner le meilleur de nous-mêmes. Je me souviens de ce garçon qui était venu me voir et me disait, vous savez, mon père, depuis que j'ai tel et tel ami, je sens que il faut que je mérite leur amitié. Que quand j'approche d'elles, elles sont d'une telle clarté que, à mon tour, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas regarder n'importe quoi. Voyez, je le dis vraiment, et je le dis en tant qu'homme, nous avons vraiment besoin de vous pour être les lumières, les clartés de nos vies d'hommes. Vraiment. Soyez conscients de ça. Quant à vous, messieurs, je vais vous parler du problème des filles. Elles ont un problème qui n'est pas perdu avec l'âge. Elles ont un énorme problème. Le problème des jeunes filles numéro 1, messieurs, écoutez bien. Le problème des jeunes filles numéro 1, c'est qu'elles sont compliquées. Elles sont infiniment compliquées. Mais vous n'imaginez pas combien le cœur d'une fille est compliqué. Je vous dis pourquoi. Écoutez bien. Vous verrez combien votre rôle est important, messieurs. Dans le cœur d'une fille, sans généraliser, dans le cœur d'une fille, il y a souvent, de façon consciente ou inconsciente, une crainte. Celle de ne pas plaire. Et du coup, il y a ce besoin conscient ou inconscient de se rassurer en permanence. Je me souviens de... J'avais un jour emmené en vacances un groupe de première. J'avais rencontré un d'entre eux à un mariage et j'avais bien accroché. On avait discuté longuement. Puis il m'a dit, écoutez, je pars en vacances avec mon groupe d'amis pendant une semaine. Ce serait cool qu'il y ait un jeune prêtre qui vienne avec nous pour que vous puissiez nous à la fois se détendre, mais en même temps, le matin, je leur disais la messe et puis le soir, je leur faisais un petit topo au coin du feu. Puis le reste, c'était vacances. C'était génial.
Et alors, il y avait à peu près 8 garçons et 8 filles, elles étaient en première. Et ça, c'est marrant parce que quand les garçons partent en vacances une semaine, ils emmènent leur sac qui est grand comme ça à peu près. Les filles, comme ça. Parce que les demoiselles, elles ont 3 tenues par jour. Vous avez remarqué. Il y a plusieurs garçons qui se sont changés par rapport à hier, il y a plusieurs jeunes filles qui se sont changées par rapport à hier. Et alors, un jour on était en bas dans le salon, il y a que le garçon qui était en bas en train de discuter, donc ça devait parler foot ou rugby, je sais pas. Et descend une demoiselle, avec sa tenue de milieu d'après-midi, qui était plus que mignonne. Elle descend, elle entre dans le salon, toutes les têtes des garçons sont autour, elle traverse le salon de part en part, la conversation des garçons baisse d'un cran, la tête suit, elle va s'asseoir dans le canapé, entre deux garçons, là où je pensais qu'il n'y avait pas de place pourtant, et elle finit sa course en déposant délicatement sa main sur le genou de l'un d'entre eux. Et c'est tout. Et elle n'en demandait pas plus. Elle était rassurée. Elle avait fait son effet. Vous voyez ? Voilà, c'est tout. Le problème, c'est que les garçons, mes pauvres garçons, ils n'en voulaient plus. Ça, c'est typique. C'est le besoin inconscient de se rassurer. Je vous donne un autre exemple. Vous pouvez faire le test. Un autre test à faire. Pratique. Écoutez bien. Quand vous serez en fac. Au lycée. Imaginez que vous n'avez pas cours demain. C'est un garçon, messieurs. Vous n'avez pas cours demain, et puis vous dites, tiens, ben demain on sort plus tôt. Et du coup, vous croisez une de vos amies, et vous lui dites, tiens, demain j'ai vu qu'on sortait plus tôt. Est-ce que si tu veux, on peut aller prendre un café? Vous pouvez dire, ben, très bien, ouais, avec choix. Et puis voilà, c'est tout. Vous repartez avec vos potes, puis vous allez jouer au rugby, puis voilà, puis vous ne pensez plus, quoi. Qu'est-ce que va faire la jeune fille? La première chose qu'elle fait, je vais vous dire ce qu'elle fait, messieurs. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle sort son téléphone et elle appelle sa meilleure amie en disant, tu sais quoi, il y a Jean-Edouard qui m'a invité à prendre un café. C'est à Versailles. Est-ce que tu penses que ça veut dire que peut-être machin, etc. Alors la copine elle dit, je sais pas, attends, mais j'ai rencontré sa cousine cet été, je te rappelle sa cousine, parce que c'est peut-être Charles Edouard, il pense à machin, et puis t'as un café, c'est peut-être parce que la mais toi, Charles Edouard, il ne pense plus, lui, au café. Il ne pense plus au café. Et elle, la minette, pendant 24 heures. Pas sur des filles. Pourquoi? Parce que. Alors, il y a ce besoin de se rassurer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, vous, messieurs? Je vais être bien sérieux. Écoutez bien. On finira à peu près là-dessus. Chut, chut. Messieurs, c'est pour ça que c'est important pour vous, dans ces amitiés que vous avez, d'être simple. Et d'aider ces jeunes filles à se simplifier. Pour comment? D'abord en leur montrant de deux façons. En leur montrant que vous les aimez telles qu'elles sont, qu'elles n'ont pas besoin de jouer, qu'elles n'ont pas besoin de séduire, qu'elles n'ont pas besoin de tout ça, pour être appréciées. Vous les appréciez comme elles sont, naturelles et simples. Et ça, je voudrais, il faut leur faire comprendre, de leur faire sentir ça. Parce que ça va vraiment les libérer de cette crainte-là. Montrez-leur que les filles, que vous aimez, que vous appréciez, que vous respectez, c'est pas celles qui brillent. C'est celles qui sont simples, claires et naturelles. Et puis, ne jouez pas avec les sentiments de ces jeunes filles. Messieurs, vous n'avez pas le droit, par vos paroles, par vos gestes, de laisser imaginer quelque chose à une jeune fille que vous n'êtes pas capable de promettre. Vous n'avez pas le droit de jouer avec. Vous n'avez pas le droit de faire comme si. Parce que même si vous arrivez à vous en sortir plus facilement, parce que c'est vrai que nous, garçons, on déconnecte plus facilement le corps du cœur, vous ne savez jamais comment elle s'en sortira. Et je peux vous dire que le prêtre souffre de récupérer des jeunes profondément blessés parce qu'ils ont l'impression qu'on a joué avec eux, avec elles. Et puis, je vais être aussi un petit peu franc avec vous, messieurs, en faisant confiance à votre maturité, pour comprendre ce que je dis, pour écouter ce que je dis. Depuis 3 ans et demi que je suis prêtre, il y a un fléau qui ravage les cœurs des garçons. C'est le porno. Vous n'imaginez pas, et là je suis très sérieux, vous n'imaginez pas combien de jeunes je vois de 22, 23, 24 ans qui sont bousillés, je dis bien bousillés, par ces habitudes-là. Quand je reçois des pères de famille en confession, en larmes, qui me disent « Mon père, je n'arrive pas à m'en sortir. » Et du coup, même quand je me donne à mon épouse, elle que je dois tant aimer, ce sont ces images-là qui reviennent. J'ai l'impression de salir celle que j'aime, de ne pas la mériter. Je peux vous dire que ça fait vraiment réfléchir. Et ça pourquoi? Parce que le combat n'a jamais été engagé à 15 ans. Ces gars-là, ils ont commencé à s'abîmer à 13, 14, 15 ans. C'est un combat qui est super dur. Je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer au mec libéré, en s'inventer devant les autres, etc. Je m'en fous de cette façade. Moi, je parle à vos cœurs chacun. Si un jour, vous voulez poser un regard pur, un regard clair, sur celle que vous aimerez vraiment, si un jour vous voulez être capable de respecter celle que vous aimerez vraiment, alors ça décide aujourd'hui. Ça demande de décider de renoncer à tout ce qui salit le regard, à tout ce qui abîme notre cœur. Et de vous aider les uns les autres à éviter les tentations. Le plus courageux, c'est pas celui qui veut en avoir fait comme tout le monde, avoir tout vu, tout essayé. Celui qu'on doit admirer, c'est celui qui apprend à dire non. Parce qu'un jour, il veut pouvoir dire oui. Et tenir ce oui. Et là encore, messieurs, à 15 ans, il faut déjà commencer à penser à celle qu'on aimera. Cette fille-là, vous serez tellement heureux de pouvoir lui dire, tu sais, ce combat pour la pureté, il a été tellement dur. Et c'est pour toi, en pensant à toi, avant même de te connaître, que je me suis relevé, que je me suis battu, que j'ai fait de mon mieux, que je me suis confessé, que j'ai tout fait pour acquérir cette maîtrise de moi, pour acquérir cette pureté, pour acquérir cette clarté. Je termine en vous racontant une histoire vraie qui résume un peu tout ça et qui m'a beaucoup marqué. Qui montre que ce que je vous dis là, et certes très exigeant, ça vous met à contre-courant de 99% des jeunes, et pourtant c'est là où est votre vrai bonheur. C'est l'histoire d'un garçon que je connaissais bien, moi j'étais pas encore prêtre, j'étais diacre. Ce gars-là avait 20 ans, étudiant à Paris, et c'est un garçon qui avait vraiment cet idéal-là, un bel idéal, un grand idéal. Et ça n'empêche pas qu'on est quand même faible. Et un jour, un dimanche matin, il m'appelle au téléphone en me disant « Monsieur l'abbé, j'ai fait une énorme connerie hier soir. J'étais en boîte à Paris, je suis sorti avec une fille que je ne connaissais pas. On allait très loin, ça a été vraiment nul. Et je le regrette profondément. » Ce gars-là, il avait quand même, écoutez bien, marché pendant 2 heures le dimanche matin dans Paris pour trouver un prêtre pour le confesser. Tellement il ne voulait pas rester avec ça. Et puis il dit, vous savez, il faut vraiment que je la retrouve, cette fille. Il faut que je la revoie pour lui demander pardon. Il se trouve que je connaissais la fille en question. Il ne le savait pas. Et la fille, je la vois la semaine suivante. Bien sûr, elle ne savait pas que je connaissais le garçon en question. Cette fille-là, c'était une fille intelligente, assez mignonne, mais qui n'avait pas tout le même idéal. Sans doute parce qu'elle n'avait jamais entendu ce que je viens de vous dire. Et du coup, elle enchaînait, elle avait un tableau de chasse impressionnant. la vois la semaine suivante et elle me dit, monsieur l'abbé, ma vie a changé. Je dis, ah bon? Expliquez-moi. Elle me raconte, mais vous savez, samedi soir dernier, je suis allé en boîte et je suis sorti avec un garçon, jusqu'à là rien de normal pour moi. Je suis allé très loin. Bon, j'étais consentante, il était consentant, très bien. Bon, puis voilà. Et trois jours plus tard, le garçon me retrouve, vient me revoir, et il me demande pardon. Il me demande pardon d'être sorti avec moi, d'avoir posé ses gestes qui n'étaient pas vrais. Et il me dit, je te supplie de ne pas te donner si facilement désormais. Ne te donne plus si facilement, t'es trop précieuse pour ça, pour t'abîmer comme ça. Elle me dit, je n'ai jamais vu un garçon qui m'ait respecté au point de me demander pardon d'être sorti avec moi. Alors que ce n'était pas vrai. Et du coup, comme je pensais que ces garçons n'existaient pas, ce type de garçon n'existait pas, effectivement, je pensais que c'était normal et j'enchaînais. Mais maintenant je sais que ce genre de garçon existe, je me dis que si un jour je me marie, je ne serai avec un garçon qui ait ce courage-là, cette trempe-là, ce respect-là. Mais ça veut dire dans ce cas-là que moi aussi je dois l'attendre, je dois le mériter. Et du coup, me dit-elle, je vais moi aussi me confesser, pour la première fois depuis longtemps. Et j'ai décidé d'arrêter, de faire n'importe quoi. Cette fille-là, elle a retrouvé une vraie clarté. Elle a un groupe d'amis géniaux, elle est exigeante, elle est claire, elle est pure. Vous voyez, je trouve ça, cette image, cette idée, cette histoire géniale, je trouve que c'est une bonne conclusion, parce que ça vous montre deux choses. D'abord, ça vous montre l'importance de vrais amis. C'est parce que ce garçon s'est relevé qu'il a aidé cette fille à découvrir autre chose. Ils se sont aidés l'un et l'autre. Et vos amitiés, elles peuvent servir à ça. Si dans un groupe d'amis, il y en a un, deux, trois qui décident de vivre cet idéal, ils vont s'entraider. Et plus qu'ils vont donner envie aux autres de connaître ce vrai bonheur. C'est contagieux, vous savez, quelqu'un qui veut être clair. Le mal, il est contagieux, mais le bien aussi, je le crois vraiment. Et puis une autre chose, c'est que cette histoire, elle montre que rien n'est jamais perdu. Cette fille-là, elle avait fait n'importe quoi. Elle était vraiment blessée, abîmée. Et vous voyez, avec le Seigneur, grâce à la confession, grâce à la prière, avec l'aide de Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer en vérité. Le Seigneur a vraiment guéri cette fille-là, a vraiment relevé ce garçon-là, et les a rendus capables, désormais, de garder un cœur pur. Je voudrais vraiment vous demander, et je termine là-dessus, de croire non seulement que le Seigneur vous propose ce bonheur, de croire que votre bonheur, il est là, votre vraie joie, elle est là, elle est à ce sommet-là. Et qu'en même temps, le Seigneur est prêt, pour ceux qui le veulent, à vous en rendre capable, peu à peu. C'est un long combat, c'est exigeant. Mais nous, prêtres, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous donner la grâce du bon Dieu, la force du bon Dieu qui vous manque. Et je vous supplie d'y croire, même si ça vous met à contre-courant. Parce que justement, aujourd'hui, plus que jamais, je vois tellement de jeunes parmi vos amis, autour de vous, dans nos écoles, qui s'abîment. C'est derrière les façades où on veut faire tout comme tout le monde, où on veut faire tout, on veut tout essayer, etc. Derrière ces façades-là, le prêtre y voit la réalité des cœurs. J'en vois tellement qui sont blessés et qui aimeraient, sans oser le dire, qui aimeraient croire qu'autre chose est possible. Eh bien, si vous, vous y croyez, je vous promets, et ce sera votre joie, que vous découvrirez que, grâce à vous, d'autres, comme cette fille-là, d'autres découvrent la joie et la beauté de l'amour vrai. Voilà. Je vous propose de prendre 2 minutes de pause, pendant lesquelles on va vous donner des petits papiers. Si vous avez des questions ou des réactions, vous pouvez les mettre sur papier, s'anonyme. Et vous pouvez remonter vos papiers ici à mon bureau, rapidement. Et pendant un quart d'heure, avant de vous quitter, Eh bien, je répondrai à ces questions.